Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Bonsoir à tous, dernier débrief de la saison à Portimao en compagnie de notre envoyé spécial sur les courses, Michel Turcot. Salut Michel, merci d'être avec nous.
Salut Alexis, salut tout le monde.
En direct du Portugal, un circuit de Portimao que toi tu connais déjà, mais que le MotoGP a découvert, première fois qu'il venait à Portimao. Avant de parler plus de la course, quel est le sentiment général qui se dégage? Tu vas nous dire si c'est aussi ton sentiment, c'est que ce circuit il a séduit tout le monde. Ça serait étonnant qu'on revienne pas là dès l'année prochaine.
Ça on ne sait pas. Enfin, ce qui est sûr, effectivement, c'est un circuit qui a plu à tout le monde. Le circuit il y a du relief, c'est technique, donc tout le monde a pris du plaisir à rouler ici. En plus, on est fin novembre, la météo elle a été exceptionnelle. Il n'y a pas eu une goutte de pluie et puis les températures sont plus que clémentes puisqu'on avait une vingtaine de degrés tout le week-end. Donc ça fait un joli rendez-vous et je pense que tout le monde serait ravi de revenir. A priori, Portimao, ça va rester un circuit de réserve, mais de ce qu'on a compris, il y a de fortes chances qu'on revienne effectivement ici et d'ailleurs dès le mois d'avril, puisque donc le calendrier, on devrait avoir un début de saison au Qatar et ensuite. Les deux courses qui sont programmées aux États-Unis et en Argentine très probablement seront annulées parce que d'ici le mois d'avril, la situation sanitaire mondiale ne sera pas suffisamment réglée pour qu'on puisse voyager hors de l'Europe. Enfin, hormis le Qatar, c'est un peu à part. Mais donc, l'idée, ça serait d'avoir deux courses back-to-back à Portimao au mois d'avril pour remplacer les deux courses dont on vient de parler. Et ensuite, on enchaînerait à Jerez, puisque Jerez, c'est pas très loin d'ici, on est à la même latitude que l'Andalousie, il doit y avoir 200 km pour aller à Jerez, donc ça pourrait être en fait le début de la saison européenne. Mais bon, là, on est dans n'est pas encore établi, mais c'est ce qui pourrait se passer.
Bon, c'est une bonne nouvelle pour les fans de MotoGP, parce qu'on s'est vraiment régalé ce week-end comme les pilotes. Un Grand Prix remporté par Miguel Oliveira avec un boulevard d'avance, vraiment prestation impressionnante du Portugais, on va en parler longuement. Moi, la première question que j'ai envie de te poser, qu'on lui a aussi posé en conférence de presse, c'est est-ce que sa connaissance du circuit, il est portugais, c'est le local de l'étape, est-ce que ça a joué, tu penses, dans cette performance?
Je pense pas vraiment, parce que en fait tous les pilotes avaient eu l'occasion de venir ici rouler au mois d'octobre, juste avant le Grand Prix de France, si je dis pas de bêtises. Donc tout le monde a pu se familiariser avec la piste et avec des motos qui n'étaient pas des motos GP, hormis pour Bradle, qui est pilote de test et qui a roulé ce week-end. Mais en gros, toutes les usines avaient pu un peu établir des réglages de base avec leur pilote d'essai et tous les pilotes ont pu rouler pour familiariser avec la piste. Donc Oliveira, il avait couru ici à 4 ans aux 12 heures de Portimao avec une Yamaha R1. Je pense pas que ça l'ait vraiment aidé. Après, il y avait pas mal de pilotes qui avaient couru ici en CEV, parce que c'est aussi une étape du championnat du monde junior. Donc, je pense pas que ça ait fait une grosse différence. On peut pas dire non plus que ce soit l'accueil du public qui a surmotivé Miguel, puisque les tribunes étaient vides. Après, c'est vrai qu'il a, il était porté quand même le drapeau portugais. On sait que le Portugal n'a pas d'énormes athlètes de haut niveau, à part Cristiano Ronaldo et équipe de football. Mais sinon, on sait qu'aujourd'hui, Miguel, il est vraiment reconnu dans son pays en tant qu'un sportif de haut niveau. Je pense qu'effectivement, il y avait une petite motivation. Mais cette motivation, en tout cas, il a utilisé à bon escient, parce que Souvent, le fait de rouler à domicile, ça fait faire un peu, ça incite à surrouler. Là, lui, il s'est promené et tout en maîtrise, quoi. Il n'y a pas eu une faute et il a dominé toutes les séances d'essai, hormis la FP2. Très rapide tout le temps, très rapide au warm-up aussi, avec des pneus usés. Enfin, il a super bien travaillé, super bien préparé sa course. Et pour avoir discuté brièvement avec Guy Coulon, il me disait qu'ils avaient utilisé, en gros, la moto qui a roulé à Valence. Ils ont trouvé aujourd'hui une bonne base. Voilà, ici, il faut une moto assez agile. Et la KTM, elle est devenue ce qu'elle n'était pas l'an dernier. La version 2020 est vraiment progressé à ce niveau-là. Et il s'est régalé avec sa moto. Et effectivement, il était au-dessus du lot. Après, derrière lui, il y a eu deux pilotes qui s'étaient déjà bagarrés à Valence, Morbidelli et Miller, qui ont un peu fait le spectacle derrière. Et puis après beaucoup plus loin, parce qu'à 12 secondes, hein, le quatrième, c'est Paul Espargaro, il est à 12 secondes. En revanche, entre Paul Espargaro qui termine quatrième et Crutchlow qui termine 13e, il y a 6 secondes. Donc ça a vraiment été resserré derrière, quoi.
Justement, pour parler de ce podium, Oliveira, Morbidelli, Miller, dans le désordre. Est-ce que, selon toi, c'est voilà, Morbidelli, Miller, on les a vus à Valence, Oliveira, démonstration. Est-ce que ces performances-là sont annonciatrices aussi d'un niveau de forme de ces hommes-là qui peut perdurer sur 2021? Voilà, est-ce que ça peut être des hommes forts de 2021, ces trois hommes-là?
Alors, ce podium, pour moi, il est super intéressant. Bon, alors déjà parce qu'on voit effectivement, ça confirme la maturité de nouveaux pilotes. Hein. Alors, Miller un petit peu à part puisqu'on l'avait déjà vu, mais Morbidelli qui a vraiment fait une saison exceptionnelle, Oliveira aussi, ce qui devient le premier pilote KTM à gagner deux grands prix. On a trois pilotes d'équipe indépendante sur le podium, et ça, c'est vraiment. Ça reflète vraiment ce qu'a été ce championnat, c'est-à-dire qu'on a aujourd'hui, c'était pas arrivé depuis 2004 et le Qatar. Nous rappelle notre ami Thomas Morcelino. Donc ça faisait quand même 16 ans qu'on n'avait pas vu une telle performance d'équipe indépendante. Donc ça veut dire que voilà, aujourd'hui on a des équipes indépendantes qui sont de plus en plus liées à leur usine. On a vu ça avait commencé avec Ducati, hein, qui avec Pramac avait commencé à fournir de vraies motos officielles à son équipe junior. Ça a suivi avec cette année avec KTM, Honda aussi avec le team LCR qui Crutchlow avait un statut de pilote aussi officiel avec une moto de l'année. Donc voilà, il y a des liens qui se resserrent entre les constructeurs ont compris que fournir une équipe B avec du bon matériel, c'était aussi intéressant pour eux. Donc voilà, ça a resserré vraiment le plateau. Et là maintenant, enfin, on est impatient de voir Suzuki avoir une équipe B, quoi, ce qui devrait être le cas en 2022, et très certainement avec le team Petronas. Donc voilà, l'équipe à ce moment-là, l'équipe B Yamaha devenant celle de la prochaine équipe de Rossi.
D'accord.
Enfin, ça, c'est des papiers aujourd'hui, c'est pas encore signé, mais bon, c'est ce qui se dessine aussi.
D'accord, très intéressant. Pour rebondir sur ce que tu dis et le niveau de compétitivité aujourd'hui des équipes satellites avec du matériel d'usine, est-ce que c'est toujours aussi intéressant pour ces pilotes comme Morbidelli, Miller ou Oliveira de chercher à tout prix à aller dans un team usine? Voilà, Oliveira, ça fait deux saisons par exemple qu'il est chez Tech 3, que ça se passe très bien, il a le même matériel. Bon, il a dit que ça pouvait l'aider à passer un cap dans son pilotage. Qu'est-ce que tu en penses?
Bah, c'est pas dans son pilotage que ça va l'aider à passer un cap. En revanche, voilà, comme il a bien souligné, une équipe officielle, c'est plus de personnel. Donc, c'est des ingénieurs en plus qui vont pouvoir analyser le soir toutes les datas, toutes les infos qui sont enregistrées. On sait qu'aujourd'hui, sur les motos, il y a tout est enregistré, tous les mouvements de la moto, donc il y a énormément d'informations à traiter. Donc, avoir une équipe officielle, c'est avoir des ingénieurs en plus qui vont traiter ces informations et qui vont peut-être aider à chercher le dernier détail. Voilà, on voit tout est tellement serré que gagner peut-être 5 centièmes sur un tour, ça peut faire la différence sur la course. Donc c'est à ce niveau-là que le gain va être important, quoi. Enfin, qu'il peut y avoir un gain.
Tech 3, deuxième victoire la même saison, alors qu'il l'attendait depuis plus de 20 ans. Est-ce que tu as pu discuter avec Hervé Poncharal? Comment il perçoit ça là?
Ouais, je l'ai vu tout à l'heure. Bah, il est super heureux, bien évidemment. Et surtout, cette victoire, elle arrive sur une course où il y avait tout le bord de KTM qui était là. Stéphane Pierreur était là. Et donc, Hervé m'a dit qu'il pleurait de joie à l'arrivée. Il lui a tapé dans la main. Il a dit t'es banco pour qu'on continue pour 5 années de plus ensemble. Et Hervé, il a dit OK, ils ont tapé dans la main. Donc, rien n'est signé, mais a priori, ça va durer un petit moment l'histoire KTM Tech 3.
Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parlons un petit peu de nos Français. Fabio Quartararo, course encore très compliquée, termine 14e. Derrière Valentino Rossi et Maverick Vinales, qui ne font pas beaucoup mieux sur cette M1 2020. Non. Alors, Quartararo au championnat, j'ai du mal à y croire moi-même. Il finit ce championnat à la 8e place.
Ouais, il a complètement dévissé. Alors sur cette course, il a expliqué qu'il a eu des problèmes de crampes au bras. Ce qu'il y avait, on se souvient qu'il avait eu ça en début de saison l'an dernier au Mugello. Il s'était fait opérer avant le Grand Prix de Barcelone où il était monté sur son premier podium. Donc voilà, il a pas été le seul à souffrir de ce problème du syndrome, enfin de crampes, syndrome des loges. On l'a dit, c'est un circuit. Il y a pas de répit. Il y a des changements de niveau, beaucoup de relief. Donc, il était un peu surpris d'avoir, mais il n'était pas non plus mécontent de sa course. Étonnamment, comme les autres pilotes Yamaha, que ce soit Rossi ou Vinales, ils sont tous plutôt bien amusés. Même s'ils sont encore une fois loin, mais ils sont. C'était vraiment serré derrière. On a eu des belles bagarres. Ils ont pas pour une fois incriminé, pas plus incriminé que ça leur matériel. Plus une question, en l'occurrence pour Fabio, une question de physique. Et pour Johan, pareil, il a eu un petit peu de mal encore en fin de course. Pareil, il dit, la moto, il n'est pas encore à 100% à l'aise avec. Donc, dès que les pneus en fin de course, quand il y a moins de grippe, ça devient plus difficile pour la faire tourner. Et dans des courses aussi serrées que ça, on perd vite des places, quoi.
Comment tu vois quand même le développement futur de cette M1? Enfin, de quelle moto vont disposer les pilotes officiels l'année prochaine selon toi?
De toute façon, on sait qu'il n'y aura pas de... Le développement moteur est figé. Donc, il va falloir travailler avec ce qu'ils ont. Ils sont tous d'accord pour dire, alors on a dit ouais, on reprend la moto de l'an dernier, bon, on va pas écouter Vinales qui part dans tous les sens. C'est vrai que Fabio, sur le moment, il s'est dit, finalement, j'étais mieux avec ma moto l'an dernier. En fait, ils comprennent tous quand même que cette moto, elle a un plus grand potentiel. Ils ont eu des problèmes de fiabilité qui leur a causé des problèmes. Ces problèmes, ils sont identifiés, ils vont être réglés pour l'année prochaine. Ils savent qu'ils ont un moteur qui est plus performant. À partir de là, voilà, cette moto, elle est pas encore, il y a un loup quelque part au niveau de son équilibre. Ça va être plus une question de travail, de réglage. On sait que cette saison, elle a été décalée. Il n'y a pas eu les essais. Ils n'ont pas pu travailler, les gars. Il n'y a pas eu de séance d'essai entre les courses. Donc, à un moment donné, là, tout le monde était un peu sur le stress aussi, des courses qui se sont enchaînées, pas de répit, le Covid. Donc là, je pense qu'il faut laisser retomber la pression et puis réfléchir calmement. Et je pense qu'ils ont une base qui est améliorée, à développer. Mais ça serait certainement une erreur de repartir en arrière. Enfin, en tout cas, ils sont un peu tous d'accord là-dessus, quoi.
On va dire un petit mot des autres catégories, puisqu'on a eu deux autres titres qui se sont joués ce week-end au Portugal. En moto 2, Enea Bastianini qui décroche le titre devant Luca Marini et Sam Loves à égalité de points. Bastianini qui roulera en moto GP l'année prochaine avec Marini. C'est un duo qui peut être intéressant pour toi sur la Ducati l'année prochaine.
Ouais, c'est de bon. Aujourd'hui, cette année, on n'a pas eu de domination comme on a pu avoir les années précédentes en Moto 2. Quoi. Ça a été comme toutes les autres catégories. D'ailleurs, ça a été vachement disputé. Là, ça s'est réglé. Il y a eu du suspense jusqu'à la fin. Donc, ça fait des belles saisons. Après, on sait que Bastianini, c'est un pilote qui était très doué quand il est arrivé en Moto 3. Par contre, très irrégulier, pas très bien entouré. Avec Gresini, il est parti chez Alzamora. On lui reprochait de pas assez travailler. Je pense que voilà, il a qui s'est un peu remis d'aplomb. Il a compris qu'il fallait le talent, c'était une chose, mais ça suffisait pas pour gagner des courses et encore moins pour être champion du monde. Je crois qu'il s'est mis au boulot et voilà, cette année il récolte les fruits de son travail. C'est Sam Loves a pas eu de chance en se blessant à Valence parce que ouais. Je pense qu'il aurait pu lui aussi être un vrai candidat. Enfin, il aurait pu aller chercher le titre. Voilà, Marini, il a eu un petit passage à vide aussi après sa chute au Grand Prix de France. Voilà, c'est deux jeunes pilotes qui vont faire partie de la nouvelle génération du MotoGP, donc c'est assez sympa. Il y a un truc qui est plutôt marrant aussi à souligner, c'est que les trois champions du monde cette année, ils sont tous de la même année, ils sont tous nés en 97. Donc ils ont tous 23 ans, enfin Bastianini pas encore parce qu'il est fin décembre, donc c'est assez rigolo. Et finalement le plus vieux des trois, c'est Albert Arenas qui est champion du monde en Moto 3. Donc voilà, bon, ça c'était pour la petite anecdote. Mais
Albert Arenas, on va en parler. Juste, je voudrais qu'on évoque rapidement aussi le vainqueur de cette course Moto2 ce week-end. On parle de futur talent peut-être du MotoGP, Rémi Gardner, qui a fait une superbe course, sans doute un candidat au titre 2021 aussi en Moto2, et puis le digne fils de son père.
Ouais, Rémi, c'est pareil. Ouais. C'est un pilote qui a du talent, qui a jamais été encore très régulier, un côté un peu au départ... pas forcément le mec qui bossait le plus, qui pas mal de chutes, des blessures, voilà. Bon, l'année prochaine il va être chez Aki Ajo, il va être un peu plus cadré, ça sera intéressant de voir comment il continue à grandir lui aussi, quoi. Alors, il sera avec Raúl Fernández qui fait une fin de saison extraordinaire en Moto 3 aussi. Donc là je pense qu'il va y avoir, c'est pareil, il y a pas mal de il va y avoir du roulement dans les trois catégories, donc ça va être assez sympa à suivre.
Raúl Fernández qui a gagné donc le Grand Prix aujourd'hui Moto 3 à la Oliveira avec un boulevard d'avance comme il sait faire. Et donc tu le disais, Albert Arenas champion de la même année que Joan Mir. Donc Albert Arenas, c'est pas un nouveau talent brut qui vient d'arriver il y a 2 ans et qui explose tout. Mais cette saison, il a été plus régulier, plus solide. Il a gagné des courses, voilà, on a vu Ayogura par exemple aussi, beaucoup plus régulier encore, mais qui n'a pas gagné une seule course. Voilà, dans cette saison 2020 très perturbée, finalement, Arenas, il a fait parler son expérience.
Ouais, c'est un pilote qui a eu des saisons aussi compliquées, il a démarré avec des motos qui étaient quand même moins performantes, hein, la Peugeot, la Mahindra, donc il a un peu galéré au départ. Comme d'ailleurs avait pu le faire Bagnaia en son temps. C'est un pilote qui a eu un accident aussi. Il a eu un accident de vélo en 2018. On lui a enlevé la rate. Saison, ça avait été un peu difficile. Après, il y a eu un peu des soucis avec son équipe. Toujours chez Aspar. Cette année, il a récupéré la partie du garage qu'il travaillait l'an dernier avec Raúl Fernández. Ça se passe beaucoup mieux. Puis voilà, il a été, on va dire, le plus régulier parce qu'il a quand même fait des boulettes. Il a aussi été impliqué dans des accrochages avec d'autres pilotes. C'est vrai que le Moto 3, c'est quand même un peu la bataille en permanence. Donc, il faut savoir éviter les embûches, quoi. C'est pas toujours simple.
Très bien. Eh ben, te remercie, Michel. On va juste répondre très brièvement des nouvelles de Bagnaia. Bagnaia, elle était percutée par Mir en début de course. Et je ne sais pas si tu as plus d'infos, mais il se plaignait de l'épaule. Vraiment, le choc a été violent. C'est ça?
Ouais, non, j'ai pas de nouvelles, mais rien de très grave. En tout cas, cet accrochage, ça a aussi coûté la course à Mir, hein, puisqu'il a eu, à partir de là, la moto, il a eu des soucis d'électronique après cet accrochage et il s'est arrêté. Donc, il n'a pas, lui, fêté non plus de la meilleure manière son titre de champion du monde.
Est-ce que les équipes pourront modifier leur moteur pendant l'intersaison? On a répondu non. Le développement est gelé à cause du Covid. On a besoin de faire des économies. Et Portimao aussi, on l'a dit en début de live, on le reverra très probablement l'année prochaine, ce beau circuit. Donc, ça fera plaisir à tout le monde. Merci Michel. On se retrouve, j'espère, très vite. Pour parler peut-être avec des pilotes, pour peut-être un futur Talk GP. Et puis, dans tous les cas, on espère que 2021 repartira au mois de mars, comme prévu au Qatar. On croise les doigts.
On croise les doigts, effectivement. On aura l'occasion d'en reparler de tout ça.
Ça marche. Merci et bon courage pour tes bouclages de Moto Revue et GP Racing.
Ouais, et le livre d'or, n'oubliez pas le livre d'or. Salut Alexis, bientôt. Salut tout le monde. Bye bye.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.